France Inter. Mathilde Munoz. Le 5-7.
Il est 6h20. Je ne sais pas si vous connaissez Toc Toc ou Épervier. Ce sont les nouveaux outils numériques de Jean-Luc Mélenchon et d'Éric Zemmour. Il s'agit de cartes de France évolutives qui permettent à leurs militants de mieux cibler les zones ou faire du porte-à-porte pour aller dénicher les électeurs. Bonjour Benoît Thulin.
Bonjour.
Vous êtes l'ancien président du Conseil national du numérique. Ce ciblage numérique tel qu'il est fait pour cette campagne présidentielle, c'est vraiment nouveau ?
Ce qui est nouveau, c'est que tout le monde s'en saisisse, et avec plus ou moins de succès, mais que ça se soit généralisé, c'est une méthode qui est déjà en fait assez ancienne. Elle nous vient des États-Unis. J'avais eu la chance d'être un observateur un peu privilégié en 2008, parce que c'est Obama en fait, l'équipe d'Obama qui s'est mis à innover là-dessus. Et je dirais, en gros, l'idée, c'est quoi ? C'est de se dire que votre ressource militante, c'est-à-dire les gens qui vont faire campagne pour vous, elle est limitée. La deuxième chose que ça dit, c'est et qui est presque un peu étonnant pour des gens qui utilisent des outils numériques. C'est que les outils numériques sont performants aussi pour renouveler des pratiques très anciennes. C'est-à-dire en gros quoi ? La mobilisation sur le terrain. Et c'est-à-dire quoi ? De manière plus performante, le fait de frapper à les portes des gens et d'aller discuter avec eux. Voilà.
Ce qui veut dire qu'une campagne 100% numérique, c'est pas possible.
Absolument, absolument.
Il faut des méthodes traditionnelles.
Absolument. Et de toute façon, on sait que, alors aujourd'hui, c'est encore un peu plus compliqué parce que les médias aujourd'hui, entre les anciens et les nouveaux, il y a un entrelacement complet. Mais effectivement, ce qu'on a redécouvert à l'occasion d'Obama en 2008, c'était de se dire que finalement, pour convaincre les gens d'abord d'aller voter, parce que c'est que ça a un enjeu très très puissant, et ensuite éventuellement de les convaincre en allant voter, d'aller voter pour tel candidat, eh bien on était 1000 fois plus fort pour le moment, ou en tout cas bien plus performant en allant le faire en porte-à-porte. Et il y a eu une première étude qui est restée très mythique aux États-Unis. Les chiffres ont dû un peu évoluer, mais pas les ordres de grandeur. C'est qu'il vous faut en gros 200 tracts quand vous allez sur un marché pour convaincre quelqu'un, et vous distribuez 200 tracts. Au téléphone, c'est déjà beaucoup plus efficace, c'est 80 à peu près. Alors les études un peu différentes sur les pays et les moments. Et puis, quand vous allez frapper une porte et vous discutez avec quelqu'un, c'est toutes les 14 portes. Donc voilà. Donc c'est plus efficace, évidemment, de convaincre quelqu'un des visu et en prenant un peu le temps que, avec d'autres moyens un peu plus éloignés.
Mais comment ces outils de ciblage sont-ils fabriqués? D'où viennent ces données?
Alors, l'idée, est assez simple, C'est de se dire que d'abord, vous avez intérêt à privilégier tout simplement les zones, les territoires où vous allez pouvoir toucher des électeurs. D'abord, qui sont un peu en affinité avec vous. Parce que si vous allez dans un endroit où les gens sont par exemple, je ne sais pas moi, tous d'extrême droite et que vous êtes plutôt d'extrême gauche, il y a assez peu de chances que vous en convainquiez beaucoup. Donc vous avez plutôt intérêt à aller dans des territoires où il y a des gens qui sont d'abord qui s'abstiennent, mais qui s'ils venaient voter, voteraient davantage pour vous. Et je vous dirais d'une certaine manière, c'est peut-être pas la peine non plus d'aller vraiment dans des bassins territoriaux où vous savez par exemple que vous avez des gens qui vont voter pour vous et qui en plus vont voter, ne sont pas dans l'abstention de manière systématique.
Mais c'est des données de l'INSEE, des données électorales, elles viennent d'où en fait ?
Alors oui, d'abord, la base de la base, c'est que vous récupérez des données qui sont d'ailleurs des données public, vous pouvez récupérer, c'est les iris, donc c'est des découpages de l'INSEE qui vous permettent de cibler des territoires assez fins, en gros c'est des espèces de pâtés de maison, on va dire. C'est des données sociologiques d'abord, c'est ensuite des données électorales, tout ça est en open data, donc vous pouvez les récupérer, et c'est avant tout ça qui fonctionne. Aux États-Unis ça va évidemment beaucoup plus loin, parce que, alors en 2008 on était déjà à peu près en moyenne à 500 données par électeur dans les bases de données. Moi, je me souviens très bien du Parti démocrate américain. Bon, ça, c'est de la science-fiction par rapport en France, parce qu'on en est très loin. D'abord, parce que le marketing direct est beaucoup moins puissant, parce que d'abord, ensuite, c'est beaucoup évidemment encadré, beaucoup plus que ça ne l'est aux États-Unis. Et puis, il n'y a pas la culture politique, et puis il n'y a pas l'argent aussi pour pouvoir financer ces gros ciblages. Mais je vous dirais, des données assez générales sont déjà suffisantes. Et puis ensuite, enfin, ce qui est important, c'est que souvent, quand vous discutez avec quelqu'un, vous allez d'abord éventuellement pouvoir le recruter. Si c'est un fan de votre candidat, vous allez lui dire venez au meeting, rejoignez nos équipes, etc. Et puis, d'une certaine manière, ça permet aussi de pouvoir le rappeler, s'il vous laisse son numéro de téléphone, par exemple, pour lui dire, n'oubliez pas d'aller voter, ou lui envoyer un petit SMS.
Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, dans les équipes des candidats, il y a des informaticiens, des développeurs, des spécialistes du numérique, des spécialistes de la data ?
Ah oui, absolument. Vous savez, même des choses qui semblent très éloignées du numérique, organiser un meeting, par exemple. Comment est-ce que vous faites venir les gens dans un meeting ? En réalité, vous allez faire du SMS, du mail, de la newsletter. Comment est-ce qu'éventuellement vous allez diffuser au-delà des gens qui sont dans le meeting? Vous allez faire des lives, vous allez live tweeter. En fait, il y a aujourd'hui le numérique s'est complètement intégré en l'espace de 20 ans, c'est prodigieux. C'est complètement intégré dans les outils normaux et basiques de la campagne.
Et les outils aussi indispensables, incontournables, c'est les réseaux sociaux. Est-ce que tous les candidats l'utilisent de la même façon, les utilisent de la même façon?
Alors, ce qui est certain, c'est que à peu près tous aujourd'hui, ils ont des data scientists, ils ont des développeurs. Alors selon qu'ils achètent ou non des logiciels qui sont tout faits ou qui le développent pour eux-mêmes, ce qu'on fait par exemple Jean-Luc Mélenchon ou Éric Zemmour, ou qu'on achète des plateformes américaines qui font un peu le même travail. Je dirais, ce qui est assez frappant aujourd'hui, c'est que vraiment tous s'y sont mis. Alors ensuite, ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend d'abord de la force militante que vous avez, parce que bah voilà, si vous avez beaucoup de gens qui sont présents sur les médias sociaux, vous allez appuyer là-dessus. Si vous avez la force militante qui peut faire du porte-à-porte, vous allez faire aussi ça. Mais de manière générale, tout le monde utilise énormément les outils numériques. Et c'est des outils qui sont autant pour, je dirais, faire la cybercampagne, c'est une campagne qui se passe beaucoup en ligne, mais je vous dirais de plus en plus, c'est aussi un outil d'organisation militante. Les QG, en fait, aujourd'hui, c'est des plateformes numériques. Vous allez organiser les gens pour aller sur le terrain. Vous savez, à l'époque, la campagne d'Obama, on pense qu'il a fait travailler à peu près, pendant 2 ans de campagne, 1 à 2 millions de personnes gérées par des community organizers qui eux-mêmes recevaient leurs ordres sur une plateforme. Donc c'est vraiment devenu l'épine dorsale aujourd'hui d'une campagne. Elle est largement dans une plateforme numérique.
L'épine dorsale, et pourtant, on entend quand même les candidats dire qu'un passage à la télé, il n'y a rien qui le remplace. Quoi.
Mais c'est... parce que c'est vrai. Parce que pour pouvoir, d'abord parce que vous avez un agenda médiatique qui continue quand même d'être très fortement lancé par les médias traditionnels, qui eux-mêmes ne sont pas exempts de s'inspirer du numérique. Hein. Tous les débats qu'on a sur les chaînes d'info continuent aujourd'hui, c'est ça. C'est-à-dire qu'ils regardent sur Twitter ce qui marche, et puis, d'une certaine manière, il y a vraiment une symbiose entre les deux. Mais oui, passer à la télévision dans un débat ou autre, vous allez être exposé quand même à plusieurs millions immédiatement de personnes. Donc le média de masse reste la télévision, la radio, les matinales, toutes ces choses-là. Il y a, je dirais, un entrelacement complet entre les nouveaux et les anciens médias.
Et l'étape d'après, c'est quoi pendant la campagne, là, il y a un Gaspard Koenig qui a essayé d'être candidat, qui n'a pas réussi, qui n'a pas eu ses parrainages, mais il a lancé des NFT pour financer sa campagne. C'est ça, c'est les univers virtuels, l'étape d'après.
Bah, c'est la question que tout le monde se pose, mais c'est valable dans le e-commerce, dans le débat public, dans tout, en fait.
Alors, les Américains le font déjà ou pas encore?
Font déjà.
Parce que visiblement, tout vient de là-bas.
Bien sûr, il y a aussi, par exemple, dans les jeux vidéo, il y avait de la publicité, il y avait des candidats qui faisaient de la publicité en plein milieu d'un jeu vidéo, vous pouviez en avoir. Voilà, on tâtonne toujours, c'est-à-dire qu'on est toujours à la recherche de nouveaux moyens, en pensant que ce sera le Graal qui vous permettra de gagner de manière plus sérieuse. Ce qui est certain, en tout cas, c'est que être présent, faire des très bons contenus, et puis comprendre la culture de chacun de ces espaces, ça c'est important. Vous exprimez pas sur Twitter comme sur YouTube, comme TikTok, et vous n'allez pas parler aux mêmes personnes. Et donc il y a une hyper-segmentation qui est quand même évidemment très efficace.
Benoît Thuelin, une dernière question qui là porte plus sur un commentaire que sur une analyse. Hein. On a vu donc le numérique est un outil utilisé, mais en revanche en termes de contenu pour le programme des candidats, il y a peu de propositions liées au numérique qui s'aventurent peu sur ce terrain-là. Ça vous est quoi comme réflexion?
Je trouve ça très dommage parce que effectivement, hier il y a eu un petit raout où les politiques sont allés pitcher, mais c'est vrai qu'on continue de penser le numérique souvent comme un secteur, alors qu'en réalité c'est une transformation globale du monde, et qu'il devrait y avoir du numérique dans chacune des propositions des candidats. Et là, on en est encore un petit peu loin.
Et on abordera cet aspect en particulier dans l'histoire économique à 6h45. Merci Benoît Thuelin, ancien président du Conseil national du numérique et invité du 5-7. France Inter.